Jean-Christophe Becquet, chroniqueur libre à vous, vice-président de l'April et membre du bureau de la Fédération des professionnels d'OpenStreetMap, reçoit aujourd'hui Sébastien Soriano, directeur général de l'IGN, l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, pour un échange qui s'annonce passionnant. Donc je vous laisse la parole.
Merci Fred, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Sébastien.
Bonjour.
Sébastien Soriano, vous êtes depuis janvier 2021 le directeur général de l'IGN, l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière en version longue. Janvier 2021, c'est précisément à ce moment-là que l'IGN partage sous licence libre d'importantes bases de données référentielles, notamment la BD Topo, la BD Ortho et le RGE Alti. Nous en reparlerons et nous expliquerons tout cela, bien entendu, dans cette émission. Dans votre poste précédent, à la présidence de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, voyez Internet comme un bien commun qu'il convient de réguler pour le prémunir de la position dominante des GAFAM. Vous encouragez notamment la régulation par la donnée, à travers les outils développés par l'ARCEP pour recueillir des retours utilisateurs sur les atteintes au réseau. Aujourd'hui, vous portez au sein de l'IGN la notion de géocommun, qui se traduit par un rapprochement avec la communauté OpenStreetMap, notamment à travers le projet Panoramax, une pépite libre comme j'aime à le dire. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, nous sommes ensemble pour une petite heure, nous allons parler de données ouvertes ou open data, du libre dans le secteur public et des géocommuns. Cela vous convient comme présentation ?
Avec plaisir.
Donc pour commencer sur les données ouvertes de l'IGN, je voulais recueillir votre avis sur un constat. Alors c'est pas du tout scientifique, hein, c'est une observation personnelle, mais par contre une observation que j'ai faite à plusieurs titres, que ce soit dans des échanges informels en famille ou entre amis, ou dans des interventions d'enseignement que je peux réaliser à l'université, notamment dans des formations de master en géographie et urbanisme, ou encore avec des collectivités que j'accompagne à titre professionnel. Je constate pour ma part que les données ouvertes de l'IGN sont mal connues. Est-ce que vous partagez ce constat ?
Oui, sans doute. Je dirais que on est un service public et on, comme tous les services publics, on est face à des enjeux de ce qu'on appelle de transformation, de modernisation, appelez ça comme vous voulez. Et parmi ces enjeux, il y a effectivement le défi numérique qui nous oblige à nous immerger dans un espace différent. C'est-à-dire que l'IGN, historiquement, publiait des cartes en papier qui étaient distribuées dans des papeteries, aux vieux campeurs, dans tout un tas d'institutions de ce type. Et être présent dans un écosystème numérique, c'est pas pareil, parce qu'en fait, ce ne sont pas les mêmes intermédiaires qui vont porter vos données, qui vont accéder à vos données. Et donc, il faut un peu refaire son trou, exister dans cet écosystème et montrer l'intérêt de ces données pour des acteurs qui, ou bien font appel à d'autres données. Donc, il faut convaincre parfois des utilisateurs de Google Maps d'aller utiliser des fonds de plan de l'IGN. Dans la chronique, il était question du scan 25, qui est donc l'impression de la carte papier, en fait. Mais nous fournissons un plan qui, lui, est libre, qui s'appelle plan IGN. Et aujourd'hui, on trouve encore des mairies ou des acteurs publics qui vont utiliser, quand ce n'est pas Doctolib, qui vont utiliser des fonds Google plutôt que des fonds gratuits en accès libre tels que celui de l'IGN. Donc il y a ce travail de conviction. Et puis ensuite, il y a des acteurs qui ne sont pas forcément conscients de l'intérêt des données. Ça foisonne. Les données, on en a de tout type. On a les données descriptives du territoire, mais par exemple, on va avoir des données qui décrivent les bases agricoles, qui vont dire des, je sais pas moi, autour de vous, quelles sont les prairies de plus de 5 ans. On a des bases de données qui vont décrire la forêt, où sont les hêtraies, où sont les chênaies. Et il faut aller chercher ces données, en fait. Et donc il y a un chemin à faire. Dans l'open data, il y a parfois un peu une pensée magique de l'open data. C'est-à-dire, on va ouvrir les données et tout d'un coup, les usages vont se déployer d'eux-mêmes. Non, il y a une espèce de vallée de la mort, en fait, entre la donnée et son usage. Et donc, c'est un effort d'aller vers les acteurs pour qu'ils se saisissent des données. C'est aussi, je pense, un effort d'éducation, de culture de tous. C'est-à-dire qu'il y a un réflexe de l'ensemble des acteurs de se saisir aussi des données. Et donc, ça prend aussi un peu de temps de créer ces nouveaux réflexes.
Alors, vous avez tout à fait raison, hein, cette démarche open data, elle s'accompagne si on veut qu'elle soit suivie de succès. En tout cas, moi, je trouve ça assez déconcertant parce que il y a une vingtaine d'années, j'ai vu dans des administrations, dans des collectivités, des projets nécessitant les données de l'IGN ne pas se faire parce qu'il n'y avait pas le budget pour acheter à l'époque les données de l'IGN. Et aujourd'hui, ces données sont disponibles librement accessible, gratuitement accessible, et pour autant, effectivement, un grand nombre d'acteurs soit n'ont pas connaissance de la disponibilité de ces données, soit fait appel à d'autres fournisseurs de données, et du coup, basculer sur les données de l'IGN exigerait un effort d'information et de formation, un effort éventuellement d'adaptation de leurs outils et de leurs procédures, et donc ça demande du temps. Alors c'est aussi un des objectifs de notre émission Libre à vous, c'est de justement participer à faire connaître cette opportunité que constituent les données ouvertes de l'IGN. Et donc est-ce qu'on peut revenir peut-être par type de public ou par thématique, comme vous avez commencé à le faire en parlant d'agriculture, si on voulait dresser un peu un catalogue des données disponibles, qu'est-ce qu'on pourrait dire ?
Alors, il y a des données qu'on appelle des données sources, d'abord, qui sont typiquement notre donnée source la plus connue, ce sont les orthophotographies. Donc, ce sont des photographies aériennes, en fait, qui sont réalisées à angle droit, d'où ortho, et qui permettent de donner une vue aérienne qui est totalement en licence ouverte. Alors, aujourd'hui, si vous allez, par exemple, sur votre Google Maps ou votre application Apple Plan, vous avez une petite indication qui s'appelle satellite. Pour avoir une vue d'en haut, et en fait c'est pas du satellite, c'est de la vue aérienne. Ça s'appelle satellite parce qu'il y a des endroits où la définition est plus faible, où ils ont pas les moyens d'y aller en avion, donc ils appellent ça satellite pour se couvrir, mais sur le territoire français c'est essentiellement de l'avion. Donc nous on fournit cette donnée de vue du ciel du territoire français avec une précision qui est quand même très très forte, puisque une image numérique, vous savez, elle est constituée de pixels. Et un pixel représente 25 cm sur 25 cm au sol. Donc c'est vraiment une image extrêmement, extrêmement précise qui permet de voir y compris des détails. Et par ailleurs, on fournit ces informations, ce qu'on appelle en stéréoscopie, excusez-moi du terme. Ça veut dire, c'est comme l'œil humain, enfin les yeux qui ont besoin d'avoir deux angles pour restituer la 3D. Donc on produit ces données avec cette dimension-là, donc qui permet notamment de restituer des reliefs. Donc ça, c'est une première donnée source qui peut être exploité en licence ouverte. Ensuite, il y a toutes les bases de données de description, je dirais générique du territoire, donc la base topographique qui va donner le relief, les toponymes, c'est-à-dire les noms de lieux, voilà, le mont Igua, la ville de Paris, le chemin de l'église, enfin bon, tout ça. Donc la toponymie. Et puis ensuite, vous avez les grands thèmes qui vont arriver. Donc vous avez le thème bâti, c'est-à-dire qu'on va donner les différents bâtiments en relief avec le nombre d'étages et leur emprise au sol. On va donner le filet routier, donc c'est-à-dire les routes, leur sens de circulation, qui est vrai à 95%, donc ce qui à la fois est bien et pas bien, puisque si on s'en sert comme un navigateur GPS, c'est pas forcément suffisant, mais pour des usages d'aménagement du territoire, c'est largement utile. Et puis tout ce qui est description de l'occupation des sols naturels, donc par exemple tout ce qui est cours d'eau, plan d'eau. Voilà les reliefs, la forêt bien sûr, et donc comme je disais les zones agricoles. Donc ça, c'est vraiment toutes les descriptions génériques du territoire. Et puis au-dessus de ça, entre guillemets, on va travailler un peu au cas par cas au service des ministères, ce qu'on appelle l'appui aux politiques publiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, la donnée un peu générique de description du territoire, j'ai envie de dire, c'est fait. Alors évidemment, il faut la mettre à jour, mais aujourd'hui, le vrai enjeu de la data, de la donnée, c'est qu'elle est utilisée par les acteurs publics, elle est activée pour des besoins particuliers. Donc par exemple, le ministère de l'Agriculture, qui est en charge de la forêt en France, va avoir besoin d'avoir des statistiques forestières précises pour pouvoir suivre quel est l'état de santé général des forêts. Est-ce que la forêt est en train de croître ou pas? On sait qu'il y a des problèmes de sécheresse, de maladies, de tout un tas de choses. Vous avez le ministère de l'écologie, par exemple, qui lui veut suivre ce qu'on appelle la bétonisation, ou en mots plus techniques, l'artificialisation des sols, hein, qui est ce phénomène par lequel les communes ont bâti des zones commerciales, des lotissements, parfois sur des emprises anciennes agricoles, qui conduisent à un mauvais écoulement de l'eau, comme on l'a vu récemment avec les inondations dans le nord de la France. Cet excès d'artificialisation des sols, aujourd'hui, il est combattu par une politique de sobriété foncière. Donc, elle est portée au gouvernement par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, avec un principe qui s'appelle le ZAN, zéro artificialisation nette, donc qui vise à ce qu'à terme, les communes doivent, entre guillemets, rendre à la nature autant de mètres carrés qu'elles en bétonnent. Je simplifie. Et donc, par exemple, nous fournissons cette carte d'occupation des sols qui va permettre cette discussion. Donc voilà un peu les trois étages des données sources, qui sont des données brutes, essentiellement d'imagerie, mais on y reviendra sans doute. Il y a aussi d'autres technologies qu'on mobilise, comme le LIDAR. Les données génériques de description du territoire, et puis des données plus thématiques qu'on produit pour le compte des ministères, mais qui sont aussi en open data.
Alors effectivement, hein, ces orthophotos, moi j'ai le souvenir, il y a une douzaine d'années en arrière, c'était un cadeau qu'on pouvait faire à nos grands-parents que de leur offrir la vue aérienne de leur maison encadrée en format A4. Aujourd'hui, n'importe qui peut, en allant sur le site de l'IGN, télécharger la photo aérienne avec, comme vous l'avez dit, une précision impressionnante, hein, 25 cm par pixel. On voit les containers de tri sélectif et on peut reconnaître la couleur du couvercle pour savoir si c'est un container à verre, à emballage ou à déchets ultimes. Donc c'est effectivement une donnée extrêmement précise, extrêmement qualitative et accessible sous licence libre pour tout un chacun, chacune, réutilisable pour quelque usage que ce soit, sans restriction aucune, y compris à des fins commerciales.
Oui, tout à fait.
Alors, vous avez parlé effectivement de la nécessité pour certaines de ces données d'entretenir la donnée, de la mettre à jour, de la faire vivre. Et donc ça amène, et puis peut-être aussi ce que vous évoquiez sur le LIDAR, et ça m'intéresse qu'on y revienne plus tard pour expliquer à nos auditeurs, auditrices de quoi il s'agit. Mais cette nécessité de mise à jour des données, ça lève une autre question que j'avais envie de vous poser, un sujet que je voulais aborder avec vous, qui est du coup le modèle économique de l'IGN. Mmh. Comment on finance la mise à jour de ces données?
Bah, c'est compliqué, comme on dit sur les internets. C'est un défi, hein, c'est-à-dire que nous sommes un service public, donc nous recevons ce qu'on appelle une subvention de l'État qui permet de couvrir nos coûts. Sauf que le système tel qu'il est pensé aujourd'hui, le modèle économique de l'IGN, fait que nous devons compléter en fait cette subvention par ce qu'on appelle des ressources propres, c'est-à-dire des revenus que nous allons tirer ailleurs. Alors il y a une partie de ces revenus, mais qui est de plus en plus faible, qui sont des revenus commerciaux. On a un certain nombre de contrats historiques dans le domaine du spatial avec des grands acteurs. Et surtout, nos activités commerciales, c'était la vente de cartes papier. Donc on continue à en vendre. N'hésitez pas à acheter des cartes papier IGN. Nous avons changé la gamme, notamment du 100 millième qui est en train d'arriver. Donc n'hésitez pas. Mais voilà, je ne vous cacherai pas que la carte papier est quand même en déclin globalement. Ça vous étonnera pas. Et donc la plupart de nos recettes viennent en fait de ces acteurs publics. Quand je vous disais qu'on est en appui aux politiques publiques, en fait, ces acteurs publics, ce ministère de l'écologie, ministère de l'agriculture, vont nous financer en fait la production de ces données. Donc c'est un système qui est relativement vertueux, puisque finalement cette donnée, c'est un peu comme une levée de fonds, c'est-à-dire qu'en fait on préfinance la donnée, elle est payée par celui qui l'a commanditée. Mais ensuite, en fait, c'est ouvert à tous. C'est comme si, au moment de construire une route, il y avait quelqu'un qui avait accepté de construire une petite bretelle de la route supplémentaire et qu'après, il n'y a pas de péage, tout le monde peut s'en servir. Voilà, c'est ça le modèle. C'est un peu un modèle de construction d'une infrastructure informationnelle, excusez-moi de cette terminologie, qu'on construit en fonction des personnes qui sont prêtes à la financer, mais ensuite on l'ouvre. Alors, donc c'est assez vertueux. Mais c'est assez exigeant, puisque ça suppose qu'on reçoive effectivement des commandes de ces différents acteurs publics, d'où la nécessité que vous mentionnez tout à l'heure, que les acteurs publics soient conscients de ce qu'on peut faire avec la donnée. C'est-à-dire que si on était face à une administration qui n'avait pas l'habitude de se saisir de la donnée, eh bien nous n'aurions pas de commandes. Donc ça suppose qu'il y ait une marche générale de l'État vers la donnée, qu'on appelle la politique publique de la donnée, qui aille dans cette direction et qui nous tire pour que ça puisse fonctionner. Alors par ailleurs, pour être complet quand même, je dois mentionner que notre principal commanditaire public aujourd'hui est le ministère des Armées, puisque nous sommes un institut dual. En fait, jusque dans les années 90, le ministère des Armées avait des services de géographie propre. Enfin, il en a encore, mais à cette époque, qui, entre guillemets, était un peu en miroir des compétences de l'IGN. Et donc, le choix a été fait de s'appuyer sur l'IGN, qui donc produit des référentiels pour les armées, à la fois sur le territoire national, mais aussi sur les théâtres d'opération à partir de vues satellites. Évidemment, on ne va pas voler en avion sur des théâtres d'opération. Et donc, c'est un commanditaire important. Notre décret prévoit que c'est un commanditaire qui a une priorité. Hein, c'est-à-dire que s'il y a une urgence, une crise, eh ben, on se met en quatre pour répondre à leurs demandes en priorité par rapport au reste. Voilà. Et ça permet, je dirais, à la fois d'équilibrer notre budget, parce que ça nous fait un commanditaire. Et puis, il y a une vraie synergie. Finalement, on est dual, comme on dit, c'est-à-dire que quand on développe des technologies, on y reviendra, mais on travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle, la 3D, les sujets de jumeaux numériques, eh ben, on peut en faire bénéficier à la fois des besoins des politiques publiques, écologiques ou agro-environnementales, et d'autre part, des applications militaires.
Alors, il me semble qu'il y a un aspect également qui est intéressant à souligner, parce que on l'évoque aussi quand on parle des modèles économiques du libre, du logiciel libre en particulier, quand on parle au sein de l'April, c'est cette notion de mutualisation des coûts. En effet, il me semble que dans l'ancien modèle, lorsque les communes, notamment les collectivités, achetaient leurs données à l'IGN, en fait, l'argent des collectivités, c'est l'argent de nos impôts, et donc on peut penser que en fait l'argent de nos impôts était dépensé plusieurs fois pour acheter une donnée produite et vendue, commercialisée par l'IGN. Aujourd'hui, le modèle, c'est plutôt on affecte une dotation issue de nos impôts au fonctionnement de l'IGN. L'IGN produit et entretient cette donnée et la met à disposition gratuitement des collectivités, mais pas que.
Oui, tout à fait. Et effectivement, c'est beaucoup plus vertueux pour favoriser l'usage de ces données, qui se diffusent du coup plus largement. Un exemple qui a été assez marquant dans ces derniers temps, si vous voulez bien qu'on évoque la question du LIDAR.
Oui, absolument. Oui.
Donc l'IGN conduit un programme inédit d'acquisition de technologie LIDAR. Donc le LIDAR, c'est de l'impulsion laser. Donc en fait, dans l'avion qui vole, au lieu de prendre des photos, on envoie des impulsions laser au sol qui répondent, hein, comme un écho. Et ça nous permet du coup d'avoir ce qu'on appelle un nuage de points, c'est-à-dire un nuage d'impact qui nous permet d'avoir une modélisation 3D. Hein, c'est-à-dire qu'on peut naviguer en 3D dans une description du territoire avec un nuage de points extrêmement dense, puisqu'on parle d'environ 10 impacts de laser au sol au mètre carré, ce qui fait à peu près une vingtaine de points de retour. Donc c'est un nuage de points d'une densité vraiment exceptionnelle. Et ce nuage de points, il va nous permettre de répondre à des applications sur la prévention des risques en modélisant beaucoup mieux les bassins versants pour éviter les risques d'inondation. Il va permettre de modéliser la forêt, notamment pour le compte de l'Office national des forêts, l'ONF, pour pouvoir beaucoup mieux piloter la forêt publique, et puis pour également mieux modéliser les surfaces agricoles par rapport au contrôle de la PAC, de la politique agricole commune, et des subventions qui sont amenées aux agriculteurs. Donc ce LIDAR qui avait donc ces trois commanditaires que j'ai mentionnés, quand on a réalisé ce recensement, on l'a mis en open data. Et là, on a vu vraiment le petit miracle de l'open data, c'est-à-dire des gens qui se sont saisis pour des usages complètement inattendus, avec un appétit complètement étonnant. Donc on a par exemple une des grandes entreprises de SIG de notre secteur, dont je ne mentionnerai pas le nom pour pas leur faire de la publicité, mais qui sont bien connues, qui a développé un tutoriel en 10 épisodes de comment se saisir de la donnée LIDAR de l'IGN quand on a un SIG. Et donc pour pouvoir naviguer à l'intérieur de cette donnée pour typiquement des collectivités locales qui vont s'en servir pour caler d'autres modèles de bâti, de représentation du territoire ou de tout type d'usage. On a vu aussi usage bien connu du LIDAR, l'archéologie. Hein, on a vu l'archéologie, La politique publique d'archéologie ne finance pas le LIDAR, mais il s'en sert. Voilà, on a vu des relevés qui ont pu être utilisés à cette fin. Voilà, et bien d'autres modèles qui peuvent être faits. C'est aussi un peu un enjeu de démocratie, quoi, hein, que chacun puisse se saisir de données extrêmement précises pour développer des modèles, pour avoir une connaissance des enjeux, voilà, de connaissance du territoire, de la forêt, de la végétation, de la dimension urbaine. Donc ça, c'est un peu les petits miracles de l'open data où des usages parfois inattendus se développent en plus de ceux qu'on avait anticipés et qui avaient amené à financer cette production de données.
Donc avec le LIDAR, on voit à la fois la forme du sol, c'est-à-dire une information très précise du relief, mais également ce qui se trouve sur le sol, donc la forme et la hauteur des bâtiments, le type d'arbres, leur présence ou absence de feuillage. On a un niveau vraiment très très précis de détails. Et je confirme ce que vous venez de dire, parce que dans la communauté QGIS, qui est le logiciel libre de SIG, Système d'Information Géographique Libre, c'est aussi très dans le vent et très demandé d'organiser des ateliers sur comment est-ce qu'on manipule les données 3D dans QGIS et notamment les données LIDAR de l'IGN. Donc voilà, je vous rejoins dans le fait de dire que c'est un véritable trésor. Et du coup, cette couverture intégrale du territoire national avec un très haut niveau de précision en données LIDAR, elle est achevée aujourd'hui, elle est livrée ou c'est en train d'être finalisée département par département?
On a réalisé à peu près les deux tiers de la France et là on est en train de caler avec les partenaires comment est-ce qu'on termine, puisqu'aujourd'hui le financement n'est pas complètement bouclé, voilà. Donc on est en train de voir notamment si on termine la couverture en été ou en hiver. Alors ça peut paraître technique, mais en gros, si vous le faites en été, vous avez une très belle modélisation des arbres, puisque vous avez des feuilles, mais en revanche vous voyez pas très bien le sol. Voilà. Et si vous le faites en hiver, c'est le contraire. Donc si vous voulez plutôt décrire la forêt et l'agriculture, faites-le en été. Si vous voulez plutôt prévenir les risques d'inondation, faites-le en hiver. Donc on est encore en train de caler ça avec les partenaires pour comment est-ce qu'on on termine. Et par ailleurs, on a des partenariats qui éclosent avec des collectivités locales, justement pour terminer la couverture LIDAR. En fonction de différents besoins qu'elles peuvent rencontrer sur le territoire. Donc voilà, j'ai bon espoir qu'on puisse achever cette couverture en fonction des choix hiver ou été, ou bien dès l'année prochaine, ou bien dès cette année, ou bien l'année prochaine. Mmh. Voilà.
Mais à vous entendre, et en parlant de la saisonnalité de cette donnée, j'ai l'impression que, un petit peu comme ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette donnée, en fait, c'est une donnée qui va nécessiter des millésimes, des mises à jour. C'est-à-dire que on est presque dans une course sans fin. Dès qu'on aura fini la couverture du territoire, en fait, il va falloir faire la nouvelle édition des premières zones qu'on a capturées il y a 2 ou 3 ans.
Alors oui et non. C'est-à-dire que en fait, la donnée LIDAR, elle est utile même en one shot, si vous me permettez cette expression, parce qu'elle permet de caler des modèles. C'est-à-dire que quand vous avez plusieurs sources de données, si vous avez par exemple une vue aérienne ou une vue satellite pas très précise, et une vue LIDAR très précise de la même description du sol, vous pouvez faire des corrélations en fait. Et donc à partir de la donnée LIDAR très précise, vous pouvez mieux faire parler la donnée qui était moins précise, parce que vous avez créé cette corrélation, et donc cette capacité de la donnée moins précise à être plus riche, excusez-moi, c'est un peu abstrait ce que je raconte, elle est acquise, parce que vous avez permis de caler des modèles prédictifs, des modèles de détection, donc ça a une valeur en soi. Néanmoins, ce qu'on pressent, c'est que la donnée LIDAR va quand même avoir un intérêt sur ce qu'on appelle des zones à enjeu, notamment typiquement sur la forêt, où il y a quand même des tensions particulièrement fortes sur la forêt française, comme je mentionnais tout à l'heure, avec des maladies comme les scolytes, des sécheresses et le changement climatique qui fait que les essences qui sont plantées à un endroit donné ne sont plus forcément adaptées par rapport au nouveau climat. Et donc d'avoir un suivi très fin de cette forêt, c'est quelque chose qui va certainement s'imposer dans la durée, et donc une mise à jour du LIDAR sera certainement utile.
Ok, donc pour finir sur cette première partie, on parlait tout à l'heure de la nécessaire médiation autour de ces données ouvertes. Alors ce que je vous venais d'expliquer sur le LIDAR, on comprend bien que c'est très technique, c'est une donnée qui s'adresse à des spécialistes. Et donc est-ce que l'IGN fournira à un moment donné une version ou une interprétation de cette donnée ou une manière d'accéder à cette donnée grand public? Je zoome sur mon quartier, ma rue, et je vois un alors non pas le nuage de points, mais un rendu en 3D de mon environnement?
Bah écoutez, on va regarder ça. Je dirais que voilà, la trajectoire dans laquelle on est, c'est de développer un site internet qui va s'appeler carte.gouv.fr, carte au pluriel, qui va être la nouvelle interface pour à la fois les citoyens et tous les acteurs qui souhaitent se saisir de la donnée géographique, et où on aura à cœur de mettre des interfaces qui soient extrêmement faciles d'utilisation, de développer des outils, comme on dit, no code, hein, c'est-à-dire qui permettent simplement, en déplaçant des fichiers ou voilà, de manière très intuitive, de pouvoir générer sa propre carte, sa propre data visualisation. Et donc voilà, ce dispositif prévoit bien un visualisateur de données LIDAR, plutôt pour les experts, mais voilà, j'entends votre suggestion d'en faire aussi un outil pour le grand public.
Merci.
Eh bien, nous allons faire une pause musicale avant la deuxième partie. Alors, qu'est-ce que nous a choisi Étienne? Nous allons écouter Intention par Sapajou. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Intention par Sapajou, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Eh bien, nous allons poursuivre notre discussion sur les jeux communs. Vous êtes toujours sur Radio Cause Commune 93.fm à Paris, sur causecommune.fm partout. partout dans le monde. Donc avant de redonner la parole à Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'APRI, et Sébastien Soriano, directeur général de l'IGN, je vais relayer une question qui est sur le salon web. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre le salon web, c'est sur causecommune.fm, bouton de chat, salon salon libre à vous, tout simplement. Donc la question, donc c'est, on revient un petit peu au moment où vous avez parlé de vos relations avec les différents ministères. Donc la question, c'est: le gouvernement a lancé un plan d'action logiciel libre et commun numérique en 2021, entraînant notamment de la création d'administrateurs et administratrices ministérielles des données, des algorithmes et des codes sources dans les différents ministères. Et donc la question est: est-ce que ça a eu un effet en termes de culture, de l'ouverture et réutilisation des données dans les ministères? Sébastien Soriano.
Oui, je crois qu'on peut le dire. Il y a une continuité des différents ministres sur ce sujet qui est incontestable, avec donc la création du ministère de la fonction et de la transformation publique, donc qui a d'abord été dans les mains de Amélie de Montchalin, maintenant de Stanislas Guérini, donc qui porte vraiment une ambition de développer la culture de la data à l'intérieur des ministères. Et donc, je dirais que ça devient de plus en plus un réflexe. Ce qui est, je dirais, pas forcément évident, c'est le lien entre ouverture et communauté. C'est-à-dire que ouvrir, juste si c'est pour mettre, par exemple, un code sur un Git, s'il n'y a pas de travail avec une communauté, en fait, c'est pas toujours très efficace. Si on est seul à mettre son code et qu'il y a personne qui vient l'enrichir, c'est pas forcément d'un intérêt foudroyant. Et donc, je dirais que c'est ça qui reste encore, de mon point de vue, à approfondir. C'est cette notion d'animation de communauté, de faire communauté, en fait, ce qui veut dire aussi s'insérer dans un écosystème parfois qui existe. On en reparlera à propos d'OpenStreetMap. Je pense que nous, c'est un de nos défis à l'IGN. Il y a un écosystème riche de librairies applicatives, etc., qui existe. Et de s'inscrire aussi dans ces dynamiques-là, parce que voilà, le service public va pas faire communauté tout seul, quoi. Donc je dirais qu'on a bien avancé, mais il reste ce côté de s'immerger dans un écosystème qui n'est pas, sans doute pas assez systématique.
Eh bien, je vais m'appuyer sur cette question, en fait, pour aborder le deuxième sujet que je voulais discuter avec vous, Sébastien Soriano. L'APRIL, c'est l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Donc, on a parlé d'open data, mais à l'IGN, vous utilisez d'abord et vous développez, deuxième question, du logiciel libre?
Oui, en fait, je dirais qu'honnêtement, notre action n'est pas encore totalement structurée là-dessus. C'est-à-dire qu'on voit encore un peu de tout. Notamment, on a une tradition à l'IGN de développer des outils internes. Donc, on a par exemple toute une chaîne de traitement de la donnée sur satellite qui a été développée par des équipes internes de l'IGN. Mais ce sont des développements qui commencent à être un petit peu anciens. Et on n'a pas forcément eu le réflexe, justement, de faire communauté avec d'autres pour utiliser ces logiciels, ce qui pose maintenant un certain nombre de questions de maintenance, de comment est-ce qu'on continue à les faire vivre. Donc on peut trouver ça. Et puis à l'autre extrémité du spectre, par exemple, sur, je parlais du zéro artificialisation net. Sur le zéro artificialisation net, on a été assez loin puisque, donc, il est généré par intelligence artificielle. Donc, on part de l'imagerie qui est vue d'avion, et l'intelligence artificielle va faire une espèce de découpage pour dire, ça c'est une route, ça c'est un bâti, ça c'est une zone agricole, etc. Et pour faire ce travail, il y a un algorithme, et puis il y a aussi ce qu'on appelle des données d'entraînement. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, il faut lui, c'est que vous connaissez, c'est la même technologie, ce qu'on appelle computer vision, c'est la même technologie pour détecter les petits chats sur une page web. C'est que vous lui injectez des centaines ou voire des milliers d'images de chats ou sans chats, et vous lui apprenez à chaque fois, oui, il y a un chat, non, il y a pas de chat, et il va finir par les détecter. En fait, nous on fait la même chose, sauf qu'au lieu de détecter des chats, on lui demande de détecter une route, une piscine, un champ, etc. Donc on a mis non seulement en open source le logiciel, qui est assez simple, qui opère cette classification, mais on a mis en open data les données d'entraînement, ce qui nous paraît presque plus important dans ce type de situation, de permettre finalement à un autre de pouvoir répliquer ce qu'on a réalisé et de partager, notamment avec des acteurs, y compris des acteurs industriels, qui souhaitent utiliser ces données d'apprentissage à d'autres fins. Mais pour en venir vraiment spécifiquement à la question du code source, De l'open source, on a vraiment différentes pratiques. Hein. On a notamment plusieurs lignes de production à l'intérieur de l'IGN qui s'appuient sur un grand acteur privé, des SIG. Donc on n'est pas nécessairement toujours sur QGIS. Donc il y a de tout. C'est pas encore complètement systématisé.
Est-ce qu'il y a une volonté d'aller vers un usage plus systématique du logiciel libre ou parmi tous les sujets qu'il y a apporté aujourd'hui, il n'y a pas forcément de place pour ça, pour en faire un sujet prioritaire?
Si, c'est clairement une dynamique dans laquelle on veut s'inscrire. Encore une fois, pour une raison de communauté. C'est-à-dire que faire communauté, c'est s'assurer que ce sur quoi on travaille est utilisé par un écosystème d'acteurs. Et donc, c'est une manière de se garantir qu'on est à l'état de l'art, qu'on n'est pas à côté de la plaque, tout seul en train de faire un petit silo qui va mal vieillir. Et donc, travailler en communauté, pour nous, c'est un impératif. Alors évidemment, il y a la vision flemmarde de travailler en communauté, qui est d'acheter un logiciel à un éditeur qui, lui, va le faire utiliser par plusieurs utilisateurs et qui va l'entretenir. Bon, mais il y a l'autre manière de faire communauté, qui est effectivement d'aller sur des outils libres, et c'est ce qu'on souhaite faire. Je dirais qu'aujourd'hui, on est en train de développer les outils, les forges, etc. dans nos développements qui vont permettre de travailler plus en open source, mais on s'est pas encore complètement organisé pour le faire de manière systématique, ni pour documenter systématiquement tous nos codes pour pouvoir les déverser. Voilà. Donc c'est pour ça que je reste, je veux pas faire de la surpromesse. Je dirais que c'est bien une trajectoire dans laquelle on est inscrit, mais du fait de la dette technique qu'on a, Ça va prendre un peu de temps, quoi.
En tout cas, ce que vous venez d'expliquer sur les algorithmes d'intelligence artificielle, la démarche me paraît assez exemplaire, puisqu'effectivement, vous avez évoqué ce souci de libérer non seulement les codes sources, mais également les jeux de données, hein, ce qui est un des nouveaux défis que les technologies d'intelligence artificielle posent au monde du logiciel libre, selon moi. J'imagine aussi les documentations et toutes les publications autour du code source, parce que aujourd'hui un code source seul ne suffit plus pour fonctionner et pour utiliser le logiciel. Du coup, avec votre regard et votre connaissance fine du secteur public, si vous aviez des conseils à souffler à l'April pour mieux propager les enjeux et les opportunités du libre dans le secteur public, qu'est-ce que vous nous conseilleriez comme posture ou comme action à mener pour être plus efficace? Nous, on appelle de nos voeux une priorité au logiciel libre dans le secteur public. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qu'on pourrait faire pour tendre vers cet objectif?
Je vais vous faire un aveu. Moi, j'ai été directeur de cabinet il y a une dizaine d'années d'une ministre du numérique, Fleur Pellerin, à qui cette proposition avait été soumise. Et quand on l'a examinée, nos juristes nous ont dit « ça n'est pas possible ». Bon, donc, cet obstacle qui s'était présenté, néanmoins, bon, je veux pas... certainement des points de vue différents sur le sujet, mais... Indépendamment de ça, je dirais qu'il y a quand même, quelque chose qui se développe beaucoup à l'intérieur de l'État, c'est ce qu'on appelle la méthode produit, qui autrefois s'appelait la méthode bêta, qui a été poussée par la direction interministérielle du numérique. Aujourd'hui, dans la nouvelle feuille de route de la direction interministérielle du numérique, donc qui est dirigée par Stéphanie Cher, la priorité numéro 1, c'est développer la méthode produit dans l'État. C'est quoi la méthode produit? La méthode produit, ce sont des équipes très autonomes de développement, qui sont en contact direct des utilisateurs, qui sont en autonomie, qui sont drivés par l'impact et par l'usage, et qui vont produire des résultats réguliers, donc pour éviter les effets tunnels et les cycles en V, et rendre compte à des comités d'investissement qui vont accepter de remettre de l'argent ou pas dans le développement du produit. Et je pense que cette méthode produit peut vraiment très bien être en guillemets le cheval de Troie, si vous me permettez cette suggestion, du libre, dans la mesure où ce sont des développements dans lesquels on part des librairies qui existent et on fait des développements qui ont vocation à être d'emblée, comme je le disais, portés par des équipes produits qui vont être immergées dans des écosystèmes et donc en lien avec des tiers. Donc je crois que ça peut être un atout intéressant à jouer.
Oui, on part d'un besoin qui existe dans un ministère ou dans une collectivité, on propose une solution technique à ce besoin, et cette solution, elle est partagée en logiciel libre avec les réutilisateurs potentiels, avec aussi cet objectif que vous évoquiez de faire communauté autour des développements. Fred, pour réagir sur...
très rapidement, parce qu'effectivement, donc c'était à l'époque, c'était entre 2012 et 2014, effectivement, vous étiez directeur du cabinet de la ministre Fleur Pellerin. Effectivement, notamment, ça venait sans doute une note de Bercy, qui est ressorti quelques années plus tard, autour de 2016, lors du notamment du projet de loi autour de la République numérique porté par Axel Le Maire. Et à l'époque, nous avons publié une contre-analyse démontrant qu'en fait la priorité était faisable de façon purement juridique. Et on va préciser qu'effectivement, depuis, les choses ont beaucoup évolué de façon positive, dans le sens notamment avec le travail que fait la direction interministérielle du numérique et notamment l'équipe logicielle libre de Bastien Guéry. Voilà. Mais voilà, nous sommes toujours partisans d'une priorité inscrite dans la loi, qui ne veut pas dire une exclusivité.
Bien sûr.
Voilà, voilà. Petite précision.
Non, mais je dirais sur ce sujet, si vous permettez un petit complément, je pense qu'il y a un enjeu de souveraineté. C'est-à-dire que c'est quand même compliqué pour un service public de s'appuyer sur des outils qui sont propriétaires. Alors surtout, qui plus est quand ces outils appartiennent à des acteurs extra-européens, pour ne pas les citer les GAFAM. Mais de manière générale, on voit bien que le service public est en train de devenir de plus en plus numérique. Non pas par une espèce de technophilie, mais simplement parce que la réalité des Français est numérique. Aujourd'hui, quand vous allez chez le médecin, eh ben, vous utilisez des outils numériques. Quand vous avez votre ordonnance, vous pouvez la passer à votre pharmacien par un système de messagerie, etc. Donc, quand vous avez des enfants, vous allez sur Pronote, etc. Donc, on voit que nos vies sont de plus en plus numériques. Et donc, ça veut dire que le service public, entre guillemets, les agents publics de demain doivent être de plus en plus des gens qui fabrique du numérique. Parce que si on fabrique pas du numérique par nous-mêmes, ça veut dire que le service public, en fait, il va dépendre d'autres acteurs, donc qui vont d'une part avoir des revenus tirés de ça, et parfois avec des positions dominantes ou parfois des effets de dépendance à des logiciels. Et puis, ça veut dire qu'on n'est pas en maîtrise de l'évolution de ces logiciels. Ça veut dire qu'on ne décide pas de la roadmap, excusez-moi pour parler...
La feuille de route.
La feuille de route, voilà, merci, de développement. Et donc, il y a un vrai enjeu de souveraineté. Et jusqu'à présent, on gérait ça plutôt via des ESN, des entreprises de services numériques. Donc là, on parle des Capgemini, Soprasteria, etc. Mais qui peuvent poser d'autres problèmes parce que les coûts sont parfois difficiles à maîtriser. Il y a de l'infogérance qui est pas évidente. Il y a, quand même des personnes qui peuvent facturer parfois assez cher derrière. Et donc, il y a cette méthode produit dont je parlais tout à l'heure, qui vise plutôt à internaliser les développements propres à l'intérieur de l'État, alors ou bien par des fonctionnaires et des agents publics, ou bien par parfois des freelances aussi, et qui permettent du coup d'être en maîtrise sur le code lui-même. Et donc c'est quand même un enjeu important si on veut avoir des services publics qui soient entre nos mains, qui soient vraiment l'outil partagé de la nation. Qui soit quelque chose qu'on sait piloter, faire évoluer, ben il y a un enjeu de maîtrise. Si vous n'aimez pas le mot souveraineté, on va dire maîtrise de ce code qui pour lequel le logiciel libre peut être un atout réel.
Oui, en tout cas, à vous écouter, il me semble clair qu'aujourd'hui, on a des hauts fonctionnaires qui maîtrisent le plaidoyer logiciel libre, parce que en fait, ce que vous venez de dire, c'est les arguments qu'on donne quand on veut promouvoir le logiciel libre dans le secteur public. Cette notion de retrouver la maîtrise, de maîtriser les coûts, de ne pas être dépendant d'un éditeur ou d'un prestataire. Voilà, je pense que ces enjeux sont de mieux en mieux compris dans le secteur public. C'est loin d'être fini, c'est loin d'être gagné. Mais comme l'a dit Fred, on a énormément progressé, on progresse énormément. À la prix, on ne va pas s'arrêter de tenir cette ligne. Mais en tout cas, je pense que des progrès importants ont été faits.
Est-ce que je peux encore ajouter quelque chose ?
Bien sûr, bien sûr.
Parce qu'il se trouve que j'ai commis un certain nombre de d'écrits sur le service public en général. Et il y a une des choses qui rend difficile cette maîtrise, c'est une règle qui s'appelle, excusez-moi, c'est vraiment du charabia administratif, ça s'appelle la fongibilité asymétrique. Quand vous donnez de l'argent à une administration, elle a le droit de prendre les salaires des gens et au lieu de payer des salaires des gens, de payer des prestataires privés
D'accord.
pour faire le travail à leur place. Alors, bon, quand c'est du gardiennage ou pour un certain nombre de fonctions, ça peut se comprendre. Mais c'est le cas aussi pour les développements informatiques. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de ne pas recruter des développeurs et à la place d'acheter un logiciel. Mais en revanche, vous ne pouvez pas faire le contraire. C'est pour ça qu'elle est asymétrique, cette fongibilité, je m'excuse de cette expression. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de prendre sur votre budget de fonctionnement
pour
et
recruter
de dire « je vais moins dépenser en logiciel » et à la place recruter des fonctionnaires ou des agents publics contractuels pour les payer. Vous n'avez pas le droit de le faire. Et donc, vous avez quand même une manière de piloter l'argent public. Ça s'appelle la LOLF, la loi d'organisation des lois de finances de 2000, qui structurellement défavorise les développements internes. Donc on a là quand même un obstacle. Alors il y a une directive de la Première Ministre en janvier de l'année 2023 qui va justement dans le sens de favoriser cette réinternalisation des compétences, mais elle est plutôt quand même à contre-courant de cette règle générale qui a été posée sur la gestion de l'argent public. Voilà, donc dans votre plaidoyer, n'hésitez pas à mentionner cette fongibilité asymétrique, si je puis me permettre.
Donc c'est un aspect de la loi qu'il faudrait changer, selon vous. En tout cas, pour le sujet dont on parle...
Pour le citoyen Soriano, oui. Voilà, le directeur général de l'IGN ne peut pas se prononcer dessus.
Mais... J'entends.
Ça tombe bien, on a invité les deux aujourd'hui.
Merci. Donc, si vous le voulez bien, on va passer à la troisième et dernière partie de notre entretien. Vous êtes, alors peut-être pas l'inventeur du terme, mais en tout cas, vous portez cette parole, le terme géocommun, qui traduit, alors vous allez nous l'expliquer dans le détail, mais je crois qu'il fait écho à la nécessité que vous évoquiez tout à l'heure de faire communauté, de s'ouvrir à d'autres acteurs. Alors, je vais reprendre cette citation qui m'avait beaucoup amusé et que je reprenais en conclusion de ma chronique sur l'ouverture des données de l'IGN en janvier 2021, où vous disiez OSM pour OpenStreetMap IGN est une anagramme de mon SIG pour système d'information géographique. Peut-être le moment venu dans notre discussion de parler d'OpenStreetMap. Quelle relation aujourd'hui entre l'IGN et OpenStreetMap?
Oui, quand j'ai été nommé donc en janvier 2021, j'étais étonné parce que j'avais l'impression que l'IGN avait dans son histoire agacé beaucoup de monde, voilà, à cause de cette donnée payante, à cause de cette fermeture et notamment OpenStreetMap, et que pour une part OpenStreetMap s'était affirmé par le fait que comme il n'y avait pas de données publiques librement accessibles,
absolument,
eh bien c'était les citoyens eux-mêmes qui devaient, comme ça, avaient cette faculté de se mobiliser par eux-mêmes pour produire cette donnée.
Et c'est d'ailleurs ce problème qui a préfiguré à la création du projet OpenStreetMap, parce que c'est parce que London Survey, l'équivalent anglo-saxon de notre IGN, refusait de lui donner des données librement réutilisables que le fondateur d'OpenStreetMap s'est mis à cartographier son territoire et a appelé à des contributions pour produire des données libres.
Voilà, et donc effectivement, on était un peu dans cette situation et j'ai eu la chance d'arriver avec l'ouverture des données. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce qui était finalement notre principal point faible devenait un atout. C'est-à-dire que avec l'ouverture des données, nous devenions, entre guillemets, des gentils. C'est-à-dire que finalement, il y avait Google d'un côté et puis OpenStreetMap et l'IGN de l'autre. Voilà. Et donc ce renversement, il est quand même très important parce que du coup, ça nous a mis dans une trajectoire commune de pouvoir enfin partager, pouvoir être enfin dans une logique de travailler main dans la main. Donc aujourd'hui, la relation avec OpenStreetMap, je dirais qu'elle s'est OpenStreetMap France. Elle s'est, beaucoup enrichie. OpenStreetMap organise chaque année un événement qui s'appelle State of the Map, dans lequel il y a régulièrement un certain nombre d'agents de l'IGN.
Oui, on voit plein de badges IGN, je confirme.
Voilà. Et on se retrouve parfois dans certains événements de notre petit milieu de la cartographie, à être main dans la main, à présenter donc ce Panoramax peut-être dont on parlera tout à l'heure, qui est un projet commun que nous avons avec OpenStreetMap. Je dirais, en gros, nous, IGN, par rapport à nos productions propres, on a fait un recentrage qui est de se positionner sur les sujets agroécologiques. Hein, j'ai appelé ça la cartographie de l'anthropocène. C'est-à-dire que aujourd'hui, finalement, la grande affaire du cartographe public, ça n'est pas de faire une description générique du territoire, ni non plus seulement de faire une cartographie, ni non plus seulement de faire des vues aériennes, ce que nous continuons à faire et qui est évidemment essentiel, mais essayer aussi de montrer comment le territoire change. Donc c'est montrer l'évolution du littoral, montrer l'évolution de la forêt, montrer l'évolution de l'urbanisation, on parlait tout à l'heure d'artificialisation des sols, comment les trames de biodiversité potentiellement sont menacées ou peuvent être protégées par des stratégies de biodiversité. Et donc nous, ce recentrage, quelque part, il nous a éloignés d'OpenStreetMap, parce que on était un peu à touche-touche sur certains sujets parfois, et donc là, ça s'est un petit peu éloigné. Donc, par exemple, sur les POI, donc les points Point of Interest, les points d'intérêt. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un POI quand vous allez sur une carte en ligne? Eh bien, c'est ce qui apparaît pour désigner des commerces ou un lieu public. Voilà. Nous, par exemple, à l'IGN, nous sommes beaucoup recentrés sur les POI. On fait simplement les édifices publics, la toponymie, enfin un nombre très limité de choses. Et on sait très bien qu'on fera pas les commerces, par exemple. Et donc, on étudie, par exemple, actuellement la possibilité d'utiliser les POI OpenStreetMap pour un certain nombre d'applications. Je veux pas trop spoiler parce que ce sont les choses qu'on annoncera au mois de mai, des choses qu'on pourrait faire en valorisant justement les POI OpenStreetMap, parce que il y a une complémentarité naturelle qui se fait entre les deux. Donc on a ce projet commun Panoramax dont on va parler après. Je dirais qu'il y a un sujet sur lequel on n'a pas encore complètement trouvé la complémentarité, c'est le sujet de la carte, de la représentation du territoire. Parce qu'OpenStreetMap nous a libérés de Google Maps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de collectivités territoriales, d'associations qui utilisent des fonds de cartes. Donc le fond de carte, c'est la représentation du territoire numérique sur laquelle vous pouvez ensuite positionner des points ou vous pouvez faire de la médiation par différentes manières. Vous pouvez par exemple publier, je sais pas, vous êtes un service public, vous pouvez publier la carte de France de tous vos sites, voilà, en utilisant un fond de carte. Et donc historiquement, OpenStreetMap a proposé des fonds de cartes et c'est très bien. Pour autant, nous en tant qu'IGN, en tant que service public, on considère qu'on doit à nos concitoyens une représentation du territoire aussi. Et donc on n'a pas encore complètement trouvé la bonne synergie, sachant que OpenStreetMap fait le monde entier et que ça n'est pas notre vocation, que nous, vraiment, c'est le territoire français qui nous intéresse. Comment on arrive à bien travailler ensemble pour produire ensemble ces représentations du territoire? Voilà, c'est le petit maillon qui reste encore à craquer dans notre relation. Mais je dirais que, voilà, en tout cas, du point de vue de l'IGN, je peux pas me prononcer à la pointe d'OpenStreetMap. Je pense que c'est une relation qui est aujourd'hui apaisée, constructive et de relever ensemble des challenges tout en restant chacun dans sa légitimité. Nous ne sommes pas des communs, nous sommes l'État, mais pour autant, on pense qu'on a beaucoup à faire ensemble.
Oui, alors je vous rejoins sur le fait que effectivement, notamment lorsque Google a rendu l'accès à certains de ses fonds cartographiques Google Maps payants, qui initialement étaient gratuits pour acquérir une clientèle captive de ces fonds cartographiques, lorsqu'ils sont devenus payants, il y a un grand nombre d'acteurs publics et privés qui, pour ne pas payer, ont migré sur OpenStreetMap. Mais comme vous avez l'air d'accord sur la complémentarité en fait entre les données de l'IGN et les données OSM, on pourrait tout à fait effectivement imaginer que l'IGN en tant qu'opérateur public soit l'opérateur qui produit ce fonds cartographique mutualisé pour les services publics et que ce fonds cartographique soit dessiné à partir des données de l'IGN, mais pour partie, pourquoi pas, et notamment les fameux POI que vous évoquez, les points d'intérêt qui pourraient être pris dans OpenStreetMap. D'ailleurs, j'ai un exemple récent là-dessus, c'est le SMAG, le syndicat des transports de l'agglomération grenobloise, qui nous expliquait que les points d'intérêt pour son calculateur d'itinéraire, parce que les gens, quand ils vont dans un calculateur d'itinéraire de transport public, ils veulent aller à tel commerce ou à tel bâtiment ou à tel centre culturel, eh bien, les points d'intérêt, ils les prennent dans OpenStreetMap. Alors, effectivement, un des projets emblématiques de la réussite de ce travail en commun entre OpenStreetMap et l'IGN, c'est Panoramax. Panoramax, c'est un outil qui aujourd'hui est disponible en production sur Internet. Ça répond à quel besoin? Ça consiste en quoi?
Donc, l'idée de Panoramax, c'est de faire, donc vous le disiez en introduction, un géo commun. Un géo commun, c'est quoi? En fait, c'est l'idée de se dire qu'il y a certaines informations sur lequel on a personne tout seul n'arrive à la rassembler. Et donc, il faut mettre ensemble de l'énergie collective, de l'énergie de la communauté OpenStreetMap, l'énergie d'un service public comme l'IGN, mais aussi potentiellement d'autres services publics comme les pompiers, comme du ramassage d'ordures ou autre. Et Panoramax est emblématique de ça. Donc, Panoramax, en fait, c'est l'idée d'apporter une alternative libre et ouverte au petit bonhomme jaune de Google. Donc, petit bonhomme jaune de Google, c'est la vue immersive. La vue immersive, c'est super pour se balader. Alors, c'est très bien pour regarder quand on va louer une maison en vacances ou autre, quel est l'environnement autour. Mais en revanche, si on veut en faire un usage un petit peu plus trapu, qui consisterait à analyser l'image et à en extraire des choses, on n'a pas le droit.
La licence l'interdit.
Voilà, parce que la licence l'interdit. Et donc, l'idée de Panoramax, c'est de créer une banque de données, en l'occurrence une banque de données distribuée, qui va permettre à tout un chacun de mettre sa GoPro ou son smartphone sur son vélo ou sa voiture, ou éventuellement un service public d'équiper ses véhicules de la sorte, et ensuite de capturer une de l'imagerie de rue qui va être versée dans cette banque. Et ensuite, la banque de données va indexer cette information, donc va la référencer dans le temps, qui l'a prise, sous quel angle, etc. Évidemment, quelle est sa position géographique. Et à partir de là, va pouvoir offrir un certain nombre de services qui vont se construire dessus. Donc le service de base, c'est la navigation. C'est de pouvoir se balader à l'intérieur de ces images et avancer dans la rue et voir défiler. Et puis, vous pouvez imaginer d'autres services. Donc là, l'équipe est en train de développer notamment un service d'analyse automatique des panneaux de signalisation. Donc, entraîné par intelligence artificielle pour reconnaître automatiquement ces panneaux, avec l'idée de créer une boucle vertueuse, notamment avec les communes. Parce que les communes ont besoin de connaître ces panneaux pour tout un tas de sujets. Et aujourd'hui, la seule solution qu'elles ont, c'est effectivement de faire tourner ces voitures qui vont prendre ces images. Et donc, on incite les communes de ce fait-là à verser leurs images dans la banque de données Panoramax, donc qui du coup est partagée par tous, mais le bénéfice qu'elles en tirent, c'est que comme elles sont dans la communauté technique de Panoramax, eh ben elles peuvent avoir très facilement l'analyse automatique de leurs panneaux. Donc ça, c'est la boucle vertueuse qu'on essaye de dégager, c'est d'inciter, de créer des petites briques de services qui vont être utiles à différentes catégories d'utilisateurs pour les inciter à verser leurs données. Plus évidemment, le plaisir qu'a tout mappeur, tout contributeur OpenStreetMap de simplement contribuer à un effort collectif.
Et Panoramax, c'est un pur projet libre. Le code source des applications qui font fonctionner les serveurs cartographiques est libre. Les images sont sous licence libre. Pas la même licence entre l'IGN et OpenStreetMap, mais dans les deux cas, des licences libres. Les algorithmes de reconnaissance d'images pour extraire les panneaux routiers ou les passages piétons sont des logiciels libres. Donc, on est vraiment dans un projet, à mon sens, emblématique de ce que l'April appelle de ses voeux. Alors Fred me fait signe qu'on arrive au bout du temps qui nous est imparti.
Il reste encore 2-3 minutes max, on ne fera pas la prochaine pause musicale, on n'ira pas à la taverne, c'était le titre de la pause musicale, comme ça si vous voulez compléter ou apporter une conclusion.
En fait, c'était ma dernière question, Sébastien Soriano. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose ou un autre sujet que vous auriez aimé évoquer avec nous? Il nous reste 2-3 minutes.
Oui, j'ai un petit cadeau à vous faire. Alors, c'est pas très visuel à la radio, mais c'est un autocollant que j'ai créé, qui s'appelle En mode commando. Il y en a un pour la régie aussi. C'est que je pense que cette question des communs, en fait, doit être plus largement une inspiration, en fait, pour le service public. C'est-à-dire que il s'agit pas il s'agit pas de singer les communs. Les communs, c'est des gouvernances propres. Hein, donc Wikipédia, c'est une gouvernance propre qui a ses propres règles et qui font que à la fois c'est foisonnant et que parfois on peut pas être 100% complètement certain de la chose parce qu'il y a un processus de modération. Nous, le service public, on amène une information fiable et homogène, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc c'est pas la même chose. Pour autant, moi je crois qu'on peut énormément s'inspirer des communs dans l'action publique parce que les communs, c'est une manière de rassembler. Or, un des mots profonds de l'action publique aujourd'hui, c'est que nous travaillons en silo. Dans l'actualité récente, vous avez entendu parler des haies bocagères qui, selon la manière dont elles sont décrites par les détracteurs de la réglementation européenne, feraient appel à 16 réglementations différentes. Bon, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais n'empêche que c'est vrai que les haies font appel à tout un tas de réglementations différentes. Et si on avait travaillé plus selon une méthode de commun, c'est-à-dire si on avait créé une communauté de la haie entre les administrations en charge de l'agriculture, les administrations en charge de la biodiversité, les administrations en charge de tout un tas d'enjeux, qu'on avait essayé d'avoir une définition commune de là, et peut-être qu'on aurait moins généré de complexité administrative. Quand je dis ça, c'est certainement pas une critique des administrations concernées, parce que on a chacun ce mode de fonctionnement dans lequel on travaille pour son ministre, pour son administration. Donc c'est comme ça que le monde public fonctionne aujourd'hui. Mais je pense que c'est un de ses grands problèmes, c'est qu'on ne sait pas assez travailler ensemble. Et cette question des communs peut en être une solution. Donc on a ce sujet Panoramax sur lequel on travaille avec beaucoup d'acteurs, mais on a aussi des projets public-public dans lesquels on travaille, par exemple, sur l'adresse, dans lesquels on rassemble l'ensemble des adresses qui sont déclarées par les communes, ou sur un identifiant unique du bâtiment sur lequel on travaille avec l'INSEE, avec l'ADEME, avec le centre supérieur du bâtiment, avec la Direction générale des finances publiques, pour avoir une définition unique du bâtiment et éviter de créer de la bureaucratie, de la complexité administrative.
Et donc des données en silo.
Voilà. Donc cet autocollant en mode commando, c'est une manière de dire que voilà, en mode commando, ça veut dire faut à la fois être dans une logique de commun, de rassemblement, et à la fois un peu en mode commando, c'est-à-dire en mode agile, et pas commencer à vouloir faire des grands trucs institutionnels avec des commissions où il y a 10 000 personnes qui sont représentées, qui sont là pour juste représenter leur institution et pas pour agir. Voilà, donc c'est un peu ça mon appel de la fin, c'est si on peut s'inspirer justement de ce qui a été fait dans les communs, dans le monde public, on fera un grand pas.
Et ce que ça m'évoque, si on le lit en version anglophone, en mode commando, faire ensemble, faire en commun, faire en commun une émission de radio, faire en commun des logiciels libres, faire en commun des données ouvertes. Merci Sébastien Soriano pour cet échange passionné et passionnant.
C'est exactement la réflexion que je me faisais. Et il y a une question de Marie-Odile, est-ce que le dessin de l'autocollant est sous licence libre ? Pas encore, c'est ça ?
Il peut l'être.
En tout cas, on fera une photo pour vous montrer.
Voilà.
Donc, merci à Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April et membre du bureau de la Fédération des pros d'OpenStreetMap, et Sébastien Soriano, directeur général de l'IGN, l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière. Belle fin de journée à vous.